Vous écoutez France Culture.
Écoute cette mélodie, car c'était la tienne aussi. À l'envers de nous, on avait rendez-vous. Viens.
C'est si gentiment dit. Eh bien, on est là au rendez-vous en direct sur France Culture. Il sera question de sirènes, de feuilletons, de rockabilly, de fascisme et même de Jeanne Moreau avec des têtes raides qui signent Les Terriens, 13e album pour un groupe de rock qui reste toujours inclassable au bout de 30 ans. La preuve, ils feront la clôture du prochain festival d'Avignon dans la cour du Palais des Papes avec Jeanne Moreau, Benoît Lagan.
Et avec deux titres en direct du studio 108 de la Maison de la Radio, Les Terriens têtes raides qui déclarent avoir une approche physique de la musique, nous démontrerons ce soir qu'ils peuvent aussi être un groupe de rockabilly.
Nous recevrons aussi Pauline Bureau qui met en scène Une Faille, épisodes 3 et 4, pour un feuilleton théâtral, une forme qui lui permet la scénarisation de grandes sagas familiales. Lucille Como.
Portrait d'une femme de théâtre qui travaille en compagnie un théâtre concerné ou comment explorer sur scène les liens entre le politique et l'intime.
Mais d'abord, c'est l'actualité culturelle, le journal de la culture avec Xavier Martinet qui revient encore ce soir sur le financement public du spectacle vivant. Et puis on retrouvera bien sûr Benoît Lagan pour les brèves. Bonsoir Xavier Martinet.
Bonsoir Laurent.
Où en sont les financements publics du spectacle vivant ? Mardi, la ministre de la Culture, Aurélie Filippetti, annonçait la levée du gel de 7% des budgets culturels pour 2014. La nouvelle était attendue par les syndicats de théâtre et les festivals, mais l'inquiétude subsiste toujours et ils le feront savoir, manifestement.
Ils le feront savoir, vous allez voir ça. Preuve en tout cas de cette inquiétude, 3 jours avant l'annonce d'Aurélie Filippetti, c'était les propos du nouveau directeur du Festival d'Avignon, Olivier Py, qui parlait carrément de meurtre concernant ce gel des 7% des subventions d'État appliquée à son budget pour le festival. En effet, ce gel correspondait à 265 000 euros, c'est-à-dire une catastrophe au moment d'un nouveau mandat de 4 ans, avec une nouvelle salle de répétition, hein, la Fabrica, à gérer, m'expliquait son directeur délégué, Paul Rondin. Une catastrophe, car en effet, malgré le dégel, le festival d'Avignon, à l'entendre, serait au bord de l'asphyxie financière.
S'il avait fallu effectivement couper les 265 000 euros, ça voulait dire qu'on partait avec un déficit considérable, puisque la programmation, elle est faite, elle est imprimée, les contrats sont signés. Vous imaginez les répercussions sur les 3 prochaines années. À moins de faire toujours plus petit, avec toujours moins de comédiens, toujours moins de techniciens et toujours moins de personnel globalement, je ne vois pas comment, à subvention constante, on ne serait pas dans une tension très très forte. Ça fait quand même quelques années qu'on fait ces métiers, et pour accueillir un spectacle, tout d'un coup, on se retrouve en position de ne plus pouvoir le faire potentiellement avec certains pays d'Europe, qui sont dans des pratiques économiques très au-dessus des nôtres. Et alors là, le Festival d'Avignon n'est pas du tout le seul concerné. Ce que nous avions ressenti, si vous voulez, il y a quelques années, vis-à-vis, par exemple, de l'Espagne, quand l'économie s'est écroulée là-bas. Eux, ce qu'ils ressentent, c'est que la France n'a plus les moyens de ses ambitions. Et je vous parle d'une discussion que j'ai eue avec un collègue d'un grand théâtre allemand hier.
Des festivals qui risquent l'endettement et puis le théâtre subventionné est également en train de se mobiliser.
Oui, là c'est le SYNDEAC, hein, le syndicat national des entreprises artistiques et culturelles, qui demande depuis longtemps ce dégel et qui est en effet inquiet pour 3 raisons et sur 3 échelles géographiques, pourrait-on dire. D'abord à cause de l'incertitude sur les subventions d'État qui rend plus difficile, dit-il, les financements de nouvelles productions. Puis le SYNDEAC surveille également les budgets municipaux après les élections. Carcassonne, par exemple, a coupé plus de 16% de son budget culturel. Le festival de Béthune serait menacé. Et puis enfin, le SYNDEAC s'inquiète de l'avenir des régions et des départements, hein, qui doivent être supprimés en partie, sans cadre, cet avenir encore, qui risque de laisser libre ainsi 1,3 milliard d'euros pour la culture, mais sans attribution véritable, dit la présidente du SYNDEAC, Madeleine Louarne.
Je peux vous dire que pour les CDN et les scènes nationales qui sont dotées de façon importante par l'État, c'était la remise en cause de la saison qui vient. Et si on a le même scénario qui se renouvelle sur le triennal, si ça se traduisait directement en emploi, c'est 5 000 emplois minimum qui tombent par terre, d'ici très rapidement. Mais on ne crie pas du tout victoire dans le sens où on sait qu'on a des collectivités qui peuvent aussi réduire, et ça de façon très disparate. On sait par exemple que le CDN du Nord a perdu par la région l'équivalent de 200 000 euros sur cette saison-ci. Le département d'Ille-et-Vilaine a baissé des dotations à certains établissements. Enfin voilà, c'est à tous les endroits. C'est les collectivités, certaines villes aussi. Enfin, en tout cas, ce dégel est absolument un signe qui apaise un peu parce que c'était essentiel de l'avoir.
Essentiel. Donc, autre perspective sur le problème quand Olivier Py parlait encore d'idéologie ou quand un autre metteur en scène, Jean-Pierre Vincent, lui dans Politis, parlait d'un manque de désir et d'idées au niveau politique. Eh bien, au contraire, avec ce dégel de 38 millions d'euros, quand même, le gouvernement est vigilant. C'est ce qu'affirme en tout cas le directeur de la création artistique au ministère de la Culture. Je l'ai joint tout à l'heure. Écoutez Michel Aurier.
Année après année, ce sont des crédits qui, en règle générale, font l'objet de cette reconstitution et de ce dégel. Donc, les différents opérateurs, les directeurs de festivals, de salles, etc., s'y attendent plus ou moins. En même temps, le coût des spectacles n'augmente pas. Enfin, là, et sûrement pas de la part des pays du nord de l'Europe qui, eux, ont eu à faire face à des coupes budgétaires beaucoup plus importantes, 35 à 45% en Hollande, hein, quand même, aux Pays-Bas. Le festival d'automne à Madrid a vu ses crédits en diminution de 70%. Donc, il y a, de la part du gouvernement, une attention qui est réelle, quand même, sur ces budgets-là.
Des budgets auxquels on ne peut cependant plus toucher sans affecter l'emploi, ajoute Michel Aurier, rejoignant par là Madeleine Louarne. Vous le voyez, les milieux culturels sont inquiets. Ils le feront savoir effectivement samedi en maintenant leur troisième marche pour la culture.
Peut-être des réactions de la part de deux concernés, Pauline Bureau qui est auteure, metteuse en scène, et puis Christian Olivier, membre fondateur des Têtes Raides. Qui est Guen, c'est vous.
Ouais, allez, on y va. Bah, c'est vrai que c'est une période qui est difficile, ouais. Je veux dire, dans le spectacle vivant en général, et aussi dans le privé. Je dirais qu'il y a ceux qui sont subventionnés, ceux qui ne le sont pas. Moi, ce que je vois, c'est que, en même temps, c'est difficile aujourd'hui de pouvoir programmer en tout cas un spectacle, que ce soit de théâtre ou de musique. Ensuite, ce qui m'a paru bizarre, c'est qu'en même temps, il y a de plus en plus de nouvelles salles partout, dans des petites villes, des fois. Des fois, c'est un bled où on se retrouve dans une salle avec un équipement monstrueux, avec tout un tas de choses. Mais dans cette salle, on ne peut plus faire venir de spectacle. Donc il y a des gens...
Qui coûte trop cher par rapport à ce genre de
voilà.
Salle.
Et donc, pratiquement, il n'y a plus de spectacle, c'est limité. On ne peut plus programmer puisqu'il n'y a plus le financement. Donc il y a un décalage, en tout cas, déjà, entre tout ce qui est architecture, toutes les nouvelles salles, et puis les spectacles qu'on ne peut plus programmer, quoi.
Pauline Bureau, j'imagine que vous mobilisez vous aussi sur ce sujet ?
Oui, moi j'ai fait le choix de travailler en compagnie, donc on est une quinzaine, vingtaine à travailler en compagnie, et c'est vrai que la période est dure, parce qu'effectivement c'est dur pour les lieux, mais les compagnies c'est des structures encore plus fragiles, qui s'appuient énormément sur l'intermittence, qui aujourd'hui est de plus en plus fragilisée. Et on voit aussi que ce qui est dur pour les lieux, c'est répercuté très fort pour les compagnies, que tout devient compliqué, que sur les spectacles, les prix, effectivement, les lieux sont de plus en plus attentifs à tout. Et que pour continuer à travailler en compagnie, c'est un pari, quoi.
Justement, pourquoi vous avez fait le choix de travailler en compagnie ?
Parce que moi, c'est ça qui m'intéresse. Moi, ce qui me plaît, c'est de faire du théâtre, quoi. C'est de
passer, peut faire du théâtre sans avoir une compagnie.
Ce que je veux dire, c'est que ce qui me plaît, c'est... Alors, moi, je pensais peut-être compagnie par rapport à lieu. Donc, moi, ce qui me plaît, c'est de passer mes journées vraiment au plateau avec des acteurs. Après, la compagnie, c'est aussi parce que j'ai une histoire avec une équipe et avec des acteurs. Et que cette histoire, ça fait 10 ans maintenant qu'on l'a. Et que c'est avec eux que je passe ce temps-là à travailler. Et que du coup, la compagnie me permet ça.
Vous avez l'impression qu'il y aura des mobilisations lors des festivals ?
Des mobilisations, je pense qu'il faut qu'il y en ait même régulièrement. Ensuite, faut pas se tromper de cible non plus. Moi, je suis plutôt se mobiliser. Je suis plutôt je fais partie des gens qui pensent qu'il faut que le spectacle ait lieu, mais en se mobilisant. Ça, c'est bon. Chacun après pense comme il veut. Mais de toute façon, il faut effectivement. Je crois qu'il y a des rendez-vous à se donner. Mais je pense que entre nous aussi, il y a des choses à se dire. Si on parle de l'intermittence, bien entendu. C'est un sujet important, c'est un sujet qu'il faut défendre. Mais je pense qu'il y a des questions aussi à poser et à régler éventuellement. Quoi.
Xavier Martin, on se retrouve demain. On sera en direct et en public au Palais de Tokyo. Vous serez des nôtres.
Et je serai des vôtres avec grand plaisir.
Tout de suite, les brèves de Benoît Laguenne.
Saxo et moi, on est amis.
Amis, un cuivre et un bois. N'importe quoi. On aura tout entendu.
Thank you.
Et on ouvre ses brèves sur cet extrait de Piccolo Saxo et compagnie qui a été, comme l'écrit Libération, longtemps numéro 1 des manche-disques à la fin des années 50. Un extrait en hommage au compositeur André Pop, dont on a appris le décès à l'âge de 90 ans. Celui qui a débuté comme pianiste au Trois Baudets aux côtés de Jean Broussol, futur compagnon de la chanson. Il composera pour Bourville et Catherine Sauvage avant de devenir réalisateur de disques aux côtés notamment de Boris Vian. André Pop, qui a aussi composé plusieurs musiques de films, a travaillé avec Juliette Gréco ou encore Céline Dion. Bertrand Burgala lui avait consacré en 2002 la compilation Pop Musique.
Et perdu dans la foule des instruments, Piccolo et Saxo vivaient le plus beau jour de leur vie, car ils savaient qu'ils ne se quitteraient plus jamais.
Une réaction peut-être, Christian Olivier. André Pop, ça vous dit quelque chose, j'imagine.
Ouais. Pour moi, ça me fait toujours sourire, quoi. Ça donne le sourire, ça donne la pêche, quoi.
C'est presque une sorte de pape de l'easy listening aussi en France.
Il y a ça, ouais. Tout à fait.
Un arrangeur de génie, mais dans une catégorie bien précise. Le Monde par intérim.
Oui, les actionnaires du Monde, Pierre Berger, Xavier Niel et Mathieu Pigas, ont annoncé aujourd'hui la nomination du journaliste Gilles Vannecôte au poste de directeur du journal, à titre intérimaire, en remplacement de Nathalie Nougared, qui a annoncé sa démission mercredi. Les actionnaires ont annoncé par ailleurs qu'un nouveau directeur serait nommé d'ici la fin de l'année.
Et pendant ce temps-là, à Hollywood.
Les studios hollywoodiens Sony ont annoncé hier que le livre de Glenn Greenwald sur les révélations d'Edward Snowden sur l'espionnage américain allait être adapté pour le cinéma. Michael Wilson et Barbara Broccoli, les deux producteurs qui ont adapté de nombreux James Bond, ont en effet le projet de porter à l'écran ce livre pour en faire un film politique grand public.
Et pour terminer, la petite histoire du soir.
Eh bien, ce soir, Laurent, une petite histoire optimiste, ou comment, à l'occasion d'un joyeux événement, un institut de sondage super sympa vient de mener une chouette étude relayée par les agences de presse et de nombreux médias. C'est dire son importance. Je vous raconte. Tout commence à l'occasion du premier...
Ça vous manquait, hein, la petite histoire. Ça fait quelques jours qu'il n'y en avait pas eu. Là, je sens que vous reprenez...
Je bouillais. Tout commence à l'occasion, Laurent, du premier forum consacré à l'optimisme, oui, qui aura lieu demain et après-demain à Paris. Et à cette occasion, l'Institut Opinion Way a réalisé une étude auprès de 1063 personnes invitées à se prononcer sur la personne qui incarne le mieux l'optimisme dans 6 catégories: chanteur, comédien, écrivain, politique, animateur, journaliste et entrepreneur. Eh bien, je suis désolé de vous l'apprendre, Laurent, mais aucun de nous autour de cette table n'a été choisi par les sondés.
Parce que nous sommes de tristes cires. Alors, quelles sont les personnalités qui incarnent le mieux l'optimisme ?
Eh bien, alors, c'est soit sans intérêt, soit très attendu, soit très déprimant. Si du côté des écrivains, c'est Jean d'Ormesson qui incarne le plus les valeurs de l'optimisme devant Marc Lévy et Guillaume Musso.
Bravo l'artiste !
En ce qui concerne les chanteurs, devant Christophe Maé et Zaz, celui qui dégage le plus d'optimisme pour 34% des sondés, c'est Stromae. Dans la catégorie animateur,
journaliste. Mais ils ont bien écouté ce qu'ils racontent dans ces chansons.
On va peut-être l'écouter tout à l'heure, vous verrez. En ce qui concerne les animateurs journalistes, donc c'est Nagui qui est le plus optimiste. Et pour les acteurs, c'est Omar Sy qui arrive en tête. Si l'entrepreneur le plus positivement entreprenant, c'est Michel-Édouard Leclerc. Du côté des politiques, celui qui incarne le plus l'optimisme, c'est Nicolas Sarkozy. Alors, avec notre optimiste de réalisateur, Thomas Beau, nous avons essayé de vous le démontrer par l'extrait montage.
Qu'est-ce qui vous a plu chez lui ?
Bananana, bananana, banana chou, namana guina 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 guina.
Qu'est-ce qui vous a plu chez lui ?
Je porte toute la responsabilité de cette défaite.
Banana chou.
Le moral bas en haut d'un pont, d'une falaise ou d'un building. J'aurais l'air d'un con quand je sauterais dans le vide.
Encore une étude passionnante.
Passionnant.
Demain, ça va être la même chose ? Ou pire ?
Je ne sais pas.
On verra.
Demain est un autre jour.
À demain.
19-20, le rendez-vous.
Plateau à ta gueule avec vous, Christian Olivier, le leader, membre fondateur des Têtes Raides, ce groupe de rock français né il y a tout juste 30 ans, inclassable, je vous cite. On a essayé de nous faire entrer dans le tiroir rock musette, trash sincère, néo-réaliste, punk rock surréaliste. Notre style a fait l'effet d'un ovni à nos débuts, en pleine période alterno-rock. Nous n'avons pas cherché ni conceptualisé le fait d'être inclassable. Avec le recul, quel était votre style dans le paysage musical des années 80 ?
Bah, c'est un petit peu tout ce que vous venez de dire. Quoi.
C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il fallait défendre comme identité à l'époque, dans ce paysage-là?
Ah ça, je ne sais pas, mais nous, c'est vrai qu'on ne sait jamais... Bon, déjà, on ne connaissait personne dans la musique. On n'a jamais... quand on est arrivé, il y a le texte, déjà, qui était là. Je dirais, pour nous, Tête Raide, c'est un bout de texte. Ensuite, avec une mélodie, c'est toujours très imbriqué. Il y a quelque chose de très... on en parlait tout à l'heure, de très physique dans notre musique, de très... une approche... j'allais dire théâtral, parce que moi j'ai beaucoup j'ai suivi tout la période de Chéreau à Nanterre, de Peter Brook, de Nouchkine.
Suivi à quel titre?
En tant que spectateur, mais c'est vrai que ça m'a nourri énormément à ce moment-là. Et pour moi la musique, Tête Raide c'est de la musique, mais c'est du corps. C'est pour moi, c'est quand on est sur scène, il y a un espace, il y a le corps, et on doit raconter des histoires avec ça.
Par exemple, Nouchkine, en quoi ça a été important pour vous? Parce que c'est aussi une des références capitales pour Pauline Bureau.
Bah moi, il y a eu tout ce que raconte Nouchkine, à la fois comment l'approche du théâtre, quoi, voilà. Et puis la musique avait une part vraiment importante, et jouée sur scène, avec toute une recherche d'instruments. La musique fait partie, en tout cas, du théâtre, quoi.
Pour vous, Pauline Bureau, à quel niveau ça a joué, cette référence?
Bah moi, je suis arrivée à Paris, j'avais 14 ans. J'étais jamais allée au théâtre et je suis allée au Théâtre du Soleil, un peu comme ça. Et ça a été un choc, quoi. Après, c'était effectivement déjà sur le plateau, quoi, ce qui se passait. Et puis, c'était les Atrides. Ça durait, je crois que c'était 4 spectacles de 3 heures. Enfin, ça durait 12 heures. C'était une expérience ensemble. Et puis, c'était aussi la vie là-bas, quoi. Les acteurs, les roulottes, manger ensemble. J'ai trouvé ça juste complètement dingue de vivre comme ça, quoi.
Benoît Lagane.
Alors, vous êtes actuellement en tournée. Vous serez dans la cour d'honneur du Palais des Papes en clôture du Festival d'Avignon. Alors, on y reviendra tout à l'heure. Mais tout de suite, on va vous laisser regagner le micro pour un premier extrait de ce nouvel album, le 13e, Les Terriens. Et le titre que vous allez nous interpréter pour commencer, c'est Moderato, une chanson dans la veine rock. Donc, avec toute l'équipe, Serge Bégou et Mick Rivassa aux guitares, Eric Delbouis à la batterie, Antoine Pozzo di Borgo à la basse, Roch Ave au clavier, et bien vous, Christian Olivier au chant. On vous écoute, c'est à vous, en direct du studio 108, Moderato, Tête Raide.
T'avais pas compris, on est des grains de riz. Et l'on ira à danser, c'est pas trop tôt. Jusqu'à 12 ans, à 12 ans, brûler la peau. Moderato. Pourquoi la ville a peur? Pourquoi c'est jamais l'heure? Les fusils d'une fleur, ça nous porte le cœur. Pourquoi tu recommences toujours la même danse? Si t'avais pas compris, on est des grains de riz. J'ai pas la certitude, mais en toute exactitude, un jour je te le dis, on sera des grains de riz. Et l'on ira à danser, c'est pas trop tôt, jusqu'à 12 ans, à 12 ans, brûler la peau. C'est pas trop tôt, jusqu'à 12 ans, à 12 ans, brûler la peau. Et l'on ira à danser, c'est pas trop tôt, jusqu'à 12 ans, à 12 ans, brûler la peau. Moderato.
Modérato en direct dans le rendez-vous sur France Culture. Les Têtes-Raides, on les retrouvera sur scène demain à Vendeuvre-les-Nancy, près de chez notre collaboratrice Élodie Royer, le 22 à Saint-Marcelin en Isère au Festival Barbara et puis à Saint-Étienne le 7 juin prochain. Toutes les dates sont sur notre site. On les entendra une deuxième fois tout à l'heure.
Christian Olivier, vous revenez avec cet album à un répertoire plus rock, hein, on vient de l'entendre, axé principalement sur la guitare. Or, quand on pense généralement aux Têtes-Raides, on pense plutôt à un mélange accordéon, cuivre et cordes. Cette fois, pas de cuivre, peu de cordes, disons pas de violoncelle. Mm-hmm. Comment s'est imposé ce retour à la base, guitare, basse, batterie?
C'est une suite logique. Enfin, pour moi, c'est l'histoire Têtes-Raides, c'est le 13e album. Quand on finit un album, il y a la suite, ce qui vient derrière. Et donc, c'est toujours quelque chose d'un petit peu logique. Là, on sortait de Cordemot, l'album précédent, qui est le spectacle qu'on va donner à Avignon. On a repris des auteurs de poésie qu'on a mis en musique. On en parlera peut-être un petit peu tout à l'heure. Mais on sortait, voilà, moi je sortais vraiment de ce travail-là, qui est un travail un petit peu différent. Et dès que pour moi, c'est à l'écriture, au démarrage, quand je commence à écrire les textes des chansons, il y a tout de suite cette direction qui est là. Parce qu'en général, je commence à gribouiller, j'ai une écriture qui est très brute au départ. Et puis je commence à prendre une guitare ou l'accordéon en général. Et puis là, j'ai plutôt pris la guitare. Et il y a eu cette envie de... Enfin, c'est sorti comme ça. Au départ, c'est... On réfléchit après. On jette d'abord les choses. Et puis ensuite, ça s'organise après. Quoi.
Est-ce que ce changement sur le plan musical reflète aussi quelque chose au niveau de l'écriture et des sujets que vous abordez?
Je pense que ça peut être lié, mais ça nous est arrivé des fois de traiter des sujets plutôt assez durs où on a travaillé avec le violoncelle. Donc je dirais qu'à un moment donné, c'est plus... Puis il y a des périodes comme ça, je dirais qu'on a... encore une fois, c'est des choses qui sont physiques, qui s'entendent. On a envie de son aussi, de sonorité. Il y avait vraiment cette envie de laisser parler les guitares. Ce qui ne veut pas dire qu'on a chargé, parce qu'en même temps, il reste cet espace et toujours faire attention de ne pas boucher non plus l'espace. Mais en tout cas, voilà, c'était plus ce discours-là. Quoi.
Benoît Lagan.
Un mot sur le titre de cet album, Les Terriens, qui correspond donc à la troisième chanson. Que voulez-vous signifier par ce titre-là? Parce que chaque titre d'album, je crois, correspond pour vous comme à un nouveau personnage du monde Têtes-Raides. Les oiseaux, gratte-poil, fragile, des personnages. Qu'est-ce qui définirait donc ce nouveau personnage pluriel, Les Terriens?
Là, j'ai l'impression qu'ils sont pleins, quoi. Ils sont nombreux. C'est un petit signe pour dire... Que la période, en tout cas c'est cette période, on écrit toujours avec son temps de toute façon, hein, donc cette période-là, Les Terriens, c'était une manière pour moi de dire voilà, le personnage en l'occurrence il est multiple là, et on est tous terriens, donc c'était un petit peu, on parlait de bonne humeur là tout à l'heure, là,
d'optimisme,
voilà, donc nous on est là en tout cas pour redire des choses, à la fois avec du texte, avec de la musique, et puis sur une manière de travailler, puisque Têtes-Raides, c'est ça aussi. Quoi.
Alors, la signature passe aussi par le visuel chez vous. Depuis vos débuts, les albums sont illustrés par des dessins et des sculptures créés par un collectif de plasticiens, les Chapelets, dont vous faites partie. Ici, pour l'album, ce sont des sculptures composées de galets avec une dimension un peu art brut. Quand vous avez commencé, quel était l'art que vous regardiez?
Le départ, ça a été effectivement tout ce qui est autour de l'art brut, du buffet aussi. Parce qu'en fait, on s'est rencontrés les Chapelets à l'école. En fait, on est à l'école Estienne. On a été fan aussi d'un groupe de graphistes à l'époque qui s'appelait les Grappus. Et pour nous, c'était vraiment une référence, quoi.
Quelle était leur identité, ces Grappus?
C'était un collectif, en fait, qui travaillait à l'époque à la mairie de... Je ne sais plus, c'était Pantin ou je ne sais plus quelle mairie. Enfin bref, qui s'occupait de... Puisque ça n'existe plus, ça, maintenant, des gens qui travaillent sur les visuels graphiques d'une mairie. C'est quelque chose qui est complètement dépassé. Et c'est vrai que du fait que c'était un collectif, on était allé les voir et on était fan de leur travail, quoi.
Alors vous dites que vous écrivez vos textes un peu comme vous composez vos univers plastiques. Mmh. C'est-à-dire, quelle est là donc la méthode?
La méthode, c'est de la matière, quoi. Pour moi, les mots, encore une fois, quand je suis devant ma table, je ne me pose pas la question. Déjà, le sujet de la chanson, je ne le connais pas. Ça ne m'intéresse pas même. Le sujet, il arrive avec ce que je vais raconter. Donc c'est vrai que pour moi, c'est ça, c'est je jette des mots d'abord, ensuite ça se construit, mais ça reste, voilà, le verbe, les mots, c'est de la matière. On doit jouer avec le rythme, avec les sonorités, avec chaque mot, je dirais, à sa matière collante, qui glisse, qui est brillante, etc. Donc c'est comme quand, effectivement, quand je travaille sur les matériaux avec les chapelets, des chiffons, du bois, de la ferraille, les mots ont ce poids ou cette légèreté. Et donc c'est un travail qui est là-dessus, quoi.
Pauline Bureau, vous connaissiez le répertoire et les chansons des chapelets. Mais j'adore cet nom.
Des Têtes-Raides.
Des Têtes-Raides, oui.
Ouais, bien sûr. Bien sûr. Enfin, j'ai depuis longtemps. Ouais. C'était génial là, de les voir en live d'ailleurs.
Et de les voir bientôt au Festival d'Avignon. On va revenir là-dessus. Il y a une chanson qui est en anglais, c'est Bird, avec un côté très Pogues, très Clash, voire Tom Waits. Comme si vous retrouviez un peu là l'esprit de votre premier groupe qui était les Red Têtes dans les années 80. Quel était le répertoire que vous défendiez à l'époque avant de basculer pour les Têtes Raides?
On a démarré, on parlait de ça tout à l'heure, avril 84, c'était les premières répètes, mais on ne savait pas jouer. Hein. Moi, je faisais de la guitare avec une moufle. Et puis le batteur, il tapait sur ce qu'il pouvait. Il y avait le bassiste qui était là. Mais en fait, on s'est mis à faire des reprises d'abord. Donc c'était plutôt du rock, quoi. Chuck Berry, Eddie Cochran, les Clash, des Stones, des trucs comme ça, du ska un peu aussi. Et donc c'était plutôt ça, quoi. Le démarrage, ça a été ça, quoi.
Vous êtes musicienne, vous, de votre côté, pour les bureaux?
Non.
Parce qu'il y a beaucoup de musique dans vos spectacles.
Ouais.
Pas du tout.
Non, pas du tout. J'adore ça. Puis je trouve ça important. Et puis au théâtre, je trouve que ça ramène vraiment quelque chose d'avoir la musique en live, quoi. Mais par contre, je ne joue pas. Mais par contre, c'est marrant parce qu'en fait, là, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses, même si c'est des domaines hyper différents, mais il y a plein de choses qui font écho, quoi.
Par exemple,
L'aventure ensemble, le fait que aussi, parce que tout à l'heure on se disait, tiens, qu'est-ce que c'est la compagnie? Mais la compagnie, c'est aussi parce que moi, dans la façon dont j'ai commencé à faire du théâtre, et ce qui m'intéresse de plus en plus, c'est aussi l'aventure humaine. Et la compagnie, c'est pas seulement qu'est-ce qu'on fait au plateau, c'est qu'est-ce qu'on fait au plateau, comment, avec qui. Et la production aussi, ça joue, parce que c'est pas complètement indépendant, c'est à fond dedans, quoi, c'est tout ça mêlé. Et il y a ça, ou après, par exemple, le dire tout à l'heure, nous on fait d'abord, on réfléchit après, mais nous aussi. On commence, on va au plateau, puis après, on va essayer de comprendre qu'est-ce que c'est l'histoire qu'on raconte. Enfin, plein de choses, quoi.
Benoît.
Alors, le 27 juillet, vous serez donc dans la cour d'honneur du Festival d'Avignon pour la clôture du festival. Vous allez reprendre en partie le spectacle que vous aviez donné au Théâtre des Bouffes du Nord à Paris. Et donc, c'était à l'occasion de la sortie de l'album Corps de mots. Jeanne Moreau sera sur scène, on l'a appris récemment. Vous l'aviez déjà invitée sur un de vos albums. Que représente-t-elle pour vous? Est-ce que c'est la Jeanne Moreau du cinéma, la Jeanne Moreau du théâtre?
C'est Jeanne Moreau
qui chante aussi.
C'est tout Jeanne Moreau, quoi.
Ah, vous avez tout pris.
Ouais, on prend tout. Jeanne Moreau, c'est on parle d'histoire humaine. Je connaissais pas Jeanne Moreau. Je lui ai fait écouter donc le morceau Emma qu'on a proposé. Elle m'a rappelé. Puis elle m'a dit ouais, voilà, hop, on y va, quoi. Et donc c'est quelque chose de très simple. Donc voilà, et puis pour moi, c'est en dehors de... Bien entendu, il y a le cinéma, mais il y a la chanson aussi.
Bien sûr, une orge, notamment.
Elle n'avait pas chanté depuis un petit moment. Il y a une orge, puis tout ce qu'on connaît. Et puis pour moi, ça reste, voilà, Jeanne Moreau, c'est quelqu'un qui défend des choses, quoi. Voilà, c'est quelqu'un qui n'a jamais fait de compromis, qui est très direct là-dessus, et puis qui continue à défendre des choses et à découvrir des choses, puisque elle, ce qui l'intéresse, c'est justement de continuer à découvrir des choses. Et là-dessus, je crois qu'on... On s'est très bien entendu là-dessus. Puis je crois que nos grains de voix aussi se sont parlé.
On n'entend pas à travers vous, mais presque quand même. La cour d'honneur du Palais des Papes, on sait que c'est un lieu qui n'est pas facile. Vous l'avez, je pense, déjà visité. Vous aviez vu des spectacles?
Non, je n'ai jamais vu de spectacle, mais là, j'y suis passé deux fois pour me rendre compte quand même.
Et alors,
du chantier.
Quelle est la difficulté d'après vous?
À mon avis, c'est déjà le son. Ouais. Il va falloir vraiment trouver le bon niveau sonore. Puisque je pense que c'est un endroit qui résonne déjà. Il y a de quoi, en tout cas, raconter une histoire. Donc, c'est vraiment l'équilibre du son, déjà. Et puis ensuite, c'est vrai que c'est un plateau qui est géant, quoi. Enfin, voilà, je ne sais plus l'ouverture. Je crois que c'est à peu près 30 mètres d'ouverture. Donc, il faut occuper l'espace, pas se perdre dedans. Mais je crois qu'ensuite, il faut aussi garder quelque chose de simple en même temps. Il faut venir pour faire son spectacle. Et puis, je crois que... si Tête Raide a été programmé là-bas, c'est aussi à la fois pour le spectacle Corps de Mots, et puis continuer à garder sur ce festival le côté festif aussi, puisque c'est... Jean Villard parlait de ça déjà. Quoi. Voilà.
Jeanne Moreau a été présente plusieurs fois hein, sur, justement, sur la scène de la cour du Palais des Papes. Elle vous a parlé de ce lieu précisément ? Elle vous a dit les expériences qu'elle en avait ?
On n'a pas, on n'est pas entré dans, le, dans les détails là-dessus. En tout cas, elle connaît très bien le lieu. Quoi. Elle sait à quelle heure elle répète, puisqu'il y a des horaires de répétition là-bas qui sont précis. C'est plutôt la nuit d'ailleurs, puisque la cour d'honneur est ouverte toute la journée avec tous les touristes qui se baladent. Quoi. Donc ça se passe plutôt de minuit à 4h du matin, les répétitions. Donc ça a été précisément renseigné là-dessus. Et donc voilà, bon, on n'est pas rentré dans le détail, mais en tout cas, ouais, elle connaît parfaitement le lieu. Quoi.
Vous aimez jouer dans des endroits improbables, des lieux où l'on ne vous attend pas. Tout au long de votre parcours, on l'a noté. Quel est le lieu le plus étonnant dans lequel vous vous êtes produit avec Tête Raide ?
Il y en a plein. La cour d'honneur, ça va être un lieu étonnant, en tout cas pour le public Tête Raide aussi. Pour moi, tous les lieux, je dirais que c'est arrivé que peut-être des meilleurs souvenirs, les meilleurs souvenirs en tout cas de spectacles, de concerts, c'est, ça peut être dans un café aussi. Ça peut arriver où on a joué devant 15 personnes. Donc il n'y a pas de... En extérieur aussi, il y a eu des lieux magnifiques. Il y a des théâtres, je pense par exemple au petit théâtre de Sète qu'il y a là-bas.
Le théâtre de la mer.
Voilà, ouais. Par exemple. Mais il y en a d'autres. Hein. Bon, quand... un lieu pour moi emblématique, c'est quand, on parlait de théâtre tout à l'heure, quand j'étais allé voir le Mahabharata de Peter Brook à l'époque au Bouffe du Nord, j'étais resté aussi 12 heures dans le lieu, et je m'étais dit, on viendra jouer là. Quoi. Et ça a mis beaucoup de temps, puisqu'à l'époque c'était Micheline Rozan qui s'occupait de ça, enfin bref. Mais bon voilà, je suis allé la voir, j'ai téléphoné pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans, 10 ans, et puis... tout d'un coup,
les portes
des Bouffes du Nord sont ouvertes. Et on a ouvert les Bouffes du Nord au mois de juillet, ce qui n'était jamais arrivé. On est resté un mois avec Tête Raide. Donc ça fait partie aussi d'un lieu qui est magnifique. Il y a le Lavoir Moderne aussi à Paris, qui est en tout cas en difficulté aussi. Mais voilà, c'est des lieux pour moi. Amener le public Tête Raide, à l'époque où on a démarré, on faisait vraiment du rock, c'était plutôt très rock. Mais amener les gens dans un petit théâtre, et se retrouver assis à regarder du rock, c'était aussi, voilà, c'est emmener les gens dans des situations différentes. Quoi.
Pauline Bureau, vous au théâtre, vous avez joué hors les murs, comme on dit. Vous avez tenté ces expériences-là, c'est-à-dire jouer, je ne sais pas, dans des hôpitaux, dans des prisons, en tout cas pas dans des lieux dévolus au théâtre.
Ouais, j'ai joué, on a joué, par exemple, on a joué au jardin d'acclimatation sur les barques pour la nuit blanche. C'était des tête-à-tête, un acteur, un spectateur, et c'est une nuit, mais c'est une expérience super, quoi. Voilà. C'est beau aussi de changer d'endroit et puis de changer de rapport aussi. Le tête-à-tête, c'était intense, quoi.
Benoît.
Alors, pour conclure ce plateau, on va vous laisser retrouver Tête Raide pour un deuxième extrait de votre dernier album. Cet extrait, Des Silences, dans lequel, là, on retrouve un mélange de chants et de déclamations qui avait notamment marqué l'album précédent Corps de Mots. Donc, en direct du studio 108 de la Maison de Radio France. Pour le rendez-vous, les Tête Raide, c'est Serge Bégou, Eric Delbouis, Antoine Pozzo di Borgo, Roc Ave, Mick Ravassa et Christian Olivier au chant, mais aussi à l'accordéon pour ce titre. C'est à vous, Tête Raide.
Chaque matin, je me décide à tout raconter. L'espace de 10 minutes, je refais l'inventaire de tout ce qui est et qui va m'arriver. La grisaille infinie abstraite s'offre à moi sans pudeur, dans une douceur et une violence partagées. Je ne sais pas encore si je dois continuer à me tenir debout ou à laisser mes muscles se détendre. Ces quelques gouttes de café avalées réveillent en moi ce fossé, ce trou qui m'aspire et me fait suffoquer. Il pleut des silences, les bruits de ton absence, pour que ça recommence, faudra s'emplir de sens. jamais cru à ce que je voyais distinctement. Quand une image est nette, je la floute. Je ne veux rien voir sinon m'aveugler. J'avais déjà, dans un champ matinal, avalé la rosée d'un matin délavé. J'étais gelé. Le soleil voilé promenait ses rayons sur un tapis jaune et orangé. J'étais marbré. À quel moment la feuille se décide-t-elle à lâcher? Petite feuille colorée, laisse le vent la caresser. Il pleut, des silences, les bruits de ton absence. Pour que ça recommence, faudra s'emplir de sens. Il pleut des silences, les bruits de ton absence. Que ça recommence, faudra s'emplir de sens.
Tête raide avec des silences, donc on extrait de leur dernier album en direct dans le rendez-vous et on les retrouvera en concert un peu partout en France, notamment à Ris, Sorangis ou encore à Dijon et puis bien évidemment à Avignon et en décembre au Bataclan à Paris.
Toutes les dates seront sur le site de l'émission.
Tout à fait.
Elodie Veyra. Plateau Faille avec vous, Pauline Bureau, metteuse en scène, un parcours qui commence à la sortie du conservatoire en 2008. Ça passe par beaucoup de textes contemporains, parmi lesquels des textes que vous avez vous-même écrits au sein de votre compagnie. La part des anges, d'où vient ce nom, la part des anges?
La part des anges, c'est la part de l'alcool qui s'évapore quand on met l'alcool en tonneau. Et ça nous plaisait bien comme symbole, l'éphémère et puis... Puis l'alcool, enfin je sais pas, l'un plus l'autre, on aimait bien.
Quand vous dites ça nous plaisait bien, vous parlez de vous à la première personne du pluriel?
Non, c'est les acteurs, les acteurs avec qui on s'est lancé dans cette aventure et moi. Et puis par la suite, à des moments, on s'est dit tiens, est-ce que ça on aime encore? Et puis oui.
Vous mettez en scène au Nouveau Théâtre de Montreuil deux épisodes d'Une Faille, un feuilleton théâtral, l'histoire d'une communauté confrontée à l'effondrement d'un immeuble. Et puis vous reprendrez au Théâtre du Rond-Point à Paris à la rentrée prochaine, Sirène, un spectacle que vous avez écrit et mis en scène. Et dans les deux cas, ça prend, même si les spectacles sont différents, la forme d'un feuilleton. Qu'est-ce que ce format vous permet de travailler sur scène, Pauline Bureau?
En fait, c'est-à-dire qu'il y a deux choses. Il y a d'une part Sirène, c'est ce spectacle donc, qu'on fait avec La Part des Anges, qui est un spectacle que j'ai écrit en collaboration avec les acteurs et qui effectivement se raconte sur trois époques, sur deux continents, sur les secrets de famille. Donc c'est des années 60 à aujourd'hui. Donc effectivement, ça peut s'apparenter peut-être au feuilleton.
Et puis, en tout cas, à la saga.
Voilà, à la saga peut-être, oui, effectivement. Et puis le projet de Mathieu Bauer, qui est le feuilleton qui mène à Montreuil depuis 2 ans et où je mets en scène les derniers épisodes, qui est un projet qu'il a commencé avec 6 acteurs. Et là, c'est la fin de la deuxième saison. Et là, pour le coup, c'est un feuilleton vraiment au sens... au sens épisode et au sens premier du terme.
Pour Sirène, vous dites que j'ai écrit en collaboration, ou qu'on a écrit en collaboration avec les acteurs. Ça signifie quoi pratiquement? Comment fonctionne cette écriture?
Alors là, dans le cas de ce spectacle-là, en fait, c'est-à-dire que moi, à la base, j'avais un début de quelque chose. J'avais 10 pages, c'était le début de l'histoire. Et puis, je suis arrivée avec ça en répétition. Et à partir de là, on fonctionne en plusieurs temps. Et les acteurs, on lit ces 10 pages et puis on les oublie. Et puis, eux viennent avec des choses. Moi, je viens avec d'autres choses, mais qui ne sont pas forcément des textes que j'ai écrits. Ça peut être des interviews, des livres, une interview d'un psychanalyste sur les secrets de famille, un extrait d'une émission de striptease, enfin des choses très, très différentes. Puis les acteurs, avec ça, ils vont au plateau et ils improvisent. Et puis, ils improvisent des choses. Parfois, il y a du texte, parfois, il n'y en a pas. Et puis on ne sait pas trop au début ce que ça a à voir tout ça ensemble. Et c'est au fur et à mesure des sessions de répétition qu'on va comprendre.
Que va s'écrire donc en direct le travail? J'imagine que le travail ressemble plus ou moins à ça pour le collectif des Têtes Raides, Christian Olivier?
Oui, il y a une trame. Moi, j'arrive donc avec ce bout de texte et cette mélodie. Et puis après, c'est chacun qui rentre dans la matière, quoi. Donc au début, on ne se pose pas de questions. Encore une fois, les choses... Elles viennent petit à petit, puis après, voilà, il y a des sonorités, il y a des ambiances, il y a des... Est-ce qu'on est juste? Est-ce qu'on est sur la bonne tension? Faut enlever une note, faut en remettre... C'est du travail d'horlogerie, on va dire, quoi.
À plusieurs.
Ouais.
Lucille Comeau.
Je reviens à ce projet de Une femme, un projet qui a été impulsé par le directeur du Nouveau Théâtre de Montreuil, vous le disiez, Mathieu Bauer, qui est lui-même metteur en scène et musicien, d'ailleurs. Qu'est-ce qui vous a intéressé dans ce projet-là?
Ce qui m'intéressait, c'était le fait que c'est un projet sur la ville de Montreuil. Je trouvais que c'était intéressant d'arriver dans un théâtre avec ce projet de proximité. Parce qu'en fait, autour du projet, donc, c'est Sophie Maurer, qui est sociologue par ailleurs, et écrivaine et qui écrit en fait le texte. Et on commence en allant rencontrer un certain nombre de personnes à Montreuil et ça travaille vraiment sur la ville. Et ça, je trouvais que c'était une belle idée. Et puis après, c'était aussi de travailler en collaboration avec Mathieu et avec Bruno Gélin qui mettait en scène les autres épisodes avant moi. Je trouvais ça rigolo parce que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on fait pas, de travailler ensemble à plusieurs metteurs en scène.
On a l'impression qu'on fait ça plus à la télévision dans le cadre des séries télévisées. C'est exactement le même procédé.
Oui, c'est ça. Et il y a autre chose aussi que je trouvais chouette, c'est que les acteurs, eux, sont récurrents, ils sont au centre. Et moi, je venais. Et je me suis dit, tiens, c'est chouette aussi de pouvoir travailler dans ce sens-là avec eux qui connaissent leur rôle bien mieux que moi, je ne le connais. Parce que parfois, je dis les jaunes, ah mais non, parce que tu sais, en saison 1, elle n'aimait pas le jaune. Donc en fait, là, ça va être
en
très compliqué.
En saison 1, donc véritablement le travail de séries télévisées. C'est quelque chose que vous regardez, que vous suivez justement?
Ouais.
Lesquelles, par exemple?
Les séries télévisées, bah, beaucoup. C'est-à-dire, j'ai vu énormément de choses, mais non,
parce que ça irrigue toute une partie du théâtre, hein, on a l'impression aujourd'hui, justement, bah, Mathieu Bauer avec ça, vous-même dans le cadre des sagas, ou encore, je pense à Alexis Michalik, qui a pas mal de succès dernièrement avec ses pièces, Le Porteur d'Histoire, ou encore Le Cercle des Illusionnistes, on a l'impression que véritablement, à l'horizon d'un certain théâtre, il y a aussi la scénarisation telle qu'elle est travaillée à la télévision.
Après, je pense aussi que c'est-à-dire qu'au fur et à mesure, c'est la même chose qu'un peu le cinéma, quoi. C'est-à-dire que moi, j'ai grandi avec vachement d'images de cinéma en tête et que le théâtre, comme je vous le disais tout à l'heure, je l'ai découvert très tard. Donc forcément, ce qui a nourri mon imaginaire, c'était plus ça. Aujourd'hui, les séries télé, c'est un peu pareil. Moi, j'en regarde, mais je crois à tout le monde. Donc forcément, ça nous fait bouger aussi sur des principes narratifs.
À propos de la forme de la saga, on le disait tout à l'heure, vous avez été marqué par Ariane Mouchine et notamment par Les Atrides, qui est une forme de saga. Comment a pu fonctionner la référence dans le théâtre tel que vous le pratiquez, vous, aujourd'hui?
La référence d'Ariane Mouchkine ou de...
De cette expérience-là, de ce texte-là.
En fait, c'est-à-dire que c'est quelque chose que j'ai un peu oublié. Puis là, il n'y a pas longtemps, je me suis dit, tiens, mais c'est marrant parce qu'il y avait eu ça. Et en fait, aujourd'hui, il y a quelque chose qui pourrait se rapprocher de ça dans la façon que j'ai de faire du théâtre. Quoi. Voilà. Mais on ne va pas dire, ce n'est pas quelque chose non plus qui... Je me suis dit, tiens, voilà, ça, je trouve ça vraiment formidable, il faudrait que je fasse ça. Mais quand même, quand j'y repensais, je me suis dit, voilà, effectivement, c'était une expérience de compagnie. Et puis aussi, peut-être, c'était une femme. Et quand même, à un moment, je me suis dit, bah, tiens, oui, j'ai vu une femme qui faisait ça. Et voilà, il n'y en avait pas tant que ça à ce moment-là, quoi.
À cette époque, justement, Ariane Mouchkine vous conseille d'aller prendre des cours chez Pierre Debauche, qui était comédien et metteur en scène. Qu'est-ce que vous avez appris à ses côtés, Pauline Bureau?
Alors, Pierre Debauche, ça a été assez court parce que c'était sa femme, Françoise Danel, qui faisait les cours pour amateurs le samedi après-midi. J'avais 14 ans. Et du coup, ce qui était juste super, c'était de faire du théâtre avec des gens qui faisaient ça dans la vie. Et puis après, quand j'étais au lycée, j'étais dans un conservatoire d'arrondissement avec Daniel Ajoré. Et là, ça a été plus long, quoi. Mais enfin, en tout cas, voilà, c'est, je sais pas.
Pourquoi avoir préféré la mise en scène que le jeu, particulièrement ? Vous avez compris à quel moment ça se jouait pour vous ?
Ouais, c'est venu comme ça. J'ai pas trop su. À un moment, je me suis rendu compte. Bon, je suis rentrée au conservatoire. J'ai vu des acteurs aussi que je trouvais vraiment, vraiment dingue, quoi. Et j'adorais les regarder jouer, quoi. Et je trouvais que ce qu'ils faisaient sur le plateau, c'était juste fou. Et je continue de travailler avec eux et de trouver que ce qu'ils font sur le plateau, c'est juste fou. Et en fait, je préférais les regarder jouer que de me mettre moi sur la scène.
Comment est-ce que vous les dirigez, vos acteurs ? Est-ce que vous êtes en salle ? Est-ce que vous êtes beaucoup sur le plateau ?
Alors, je les dirige pas. Je dirigeais le mot, moi, ça, c'est pas trop comme ça qu'on travaille. En fait, eux, ils vont proposer des choses et en fait, ensemble, on va essayer de voir ce qui est juste. Mais il n'y a pas un moment où je vais savoir, moi, en disant, bah tiens, tu vois, là, je pense qu'il est en colère, il faudrait que tu le fasses comme ça. On fait pas ça du tout. En fait, eux, ils arrivent avec une couleur et puis au fur et à mesure, on va plutôt construire l'histoire et choisir ce qu'on montre d'un personnage ensemble que de moi leur expliquer comment faut faire la scène. Ils la font souvent très bien sans moi.
Ça fait écho en vous ? Question Olivier.
Ouais, c'est de toute façon c'est un travail effectivement d'équipe, de compagnie, de gens, voilà.
On a l'impression puis, que c'est à peu près le même équilibre.
Bah, et puis quand on répète, moi des fois, quand il y en a qui jouent pas bien, je leur dis joue mieux, quoi, voilà.
C'est tout.
C'est tout. Et puis, voilà,
mais vous leur dites quand même. Lucille.
Il y a une dimension qui revient dans votre théâtre, Pauline Bureau, c'est le féminisme et au-delà la féminité en général. C'est le cas dans Sirène, mais aussi dans Modèle, déjà en 2010, où il est fait référence dans les deux cas à une loi, la loi de 66, la loi sur les régimes matrimoniaux, qui a permis aux femmes de travailler, de gérer leur propre compte en banque, autre chose encore. Qu'est-ce que cette loi représente pour vous ?
C'est surtout que moi, j'ai attendu d'avoir 30 ans pour comprendre qu'en réalité, en 1966, ma grand-mère n'avait pas le droit d'avoir un compte bancaire à son nom, ma mère non plus, qu'elle n'avait pas le droit de signer un chèque et qu'elle n'avait pas le droit de travailler sans l'autorisation de son mari. Et je me suis dit quand même, là, ce qui est incroyable, c'est déjà la date, mais ensuite que moi, je n'ai pas su ça avant, quoi. Et ça m'a étonnée, quoi. Alors, c'est cette loi, c'est vrai, parce que c'est ça que j'ai appris. Mais après, il y a énormément d'autres choses qu'on ne sait pas, parce qu'en réalité, on nous apprend quelque chose à l'école, on nous apprend l'histoire de France, comme si l'histoire était la même pour tout le monde. Et l'histoire n'est pas la même pour tout le monde. L'histoire, ça n'est pas la même pour les hommes et pour les femmes. Et ça, moi, je l'ai su, j'avais 30 ans. Je me suis dit, quand même, c'est dingue qu'on ne nous le dise pas. Alors maintenant, c'est vrai que je le dis, parce que je me dis, si moi, je ne le savais pas jusqu'à il y a très peu de temps, il y a sûrement d'autres gens qui sont dans l'ignorance aussi.
On a reçu ici Camille Chamou, scénariste et comédienne humoriste que vous connaissez bien.
Oui.
Parce que c'est une amie, elle nous avait parlé de vous à cette occasion.
Oui.
Elle travaille, elle, le stand-up, le one-woman show. D'ailleurs, elle nous a dit que c'était vous qui lui avez dit que vous devriez aller de ce côté-là.
Ah oui.
Un univers qui n'est pas sur la forme, d'ailleurs, si éloigné de votre théâtre. Qu'est-ce que vous devez à cette culture américaine ? Cette présentation frontale au public, par exemple. Est-ce que c'est un univers qui correspond au théâtre que vous travaillez, même si c'est de façon détournée ?
Oui, en tout cas, c'est-à-dire le fait de parler en direct au public, j'ai l'impression que peut-être c'est la chose qu'on a en plus au théâtre. C'est-à-dire que c'est d'être là en direct, si quelqu'un tousse, on le voit, on réagit. Si quelqu'un rit aussi, on peut changer le texte. Et le fait de travailler sur est-ce que là, ce que je dis, je le dis maintenant ? Est-ce que je l'ai dit hier ? Est-ce que je le dirai demain ? Bah, peut-être pas. Peut-être que ce soir, parce que c'est vous, je dis quelque chose d'une certaine façon. Et d'ailleurs, c'est souvent le cas, parce que par exemple, Modèle, qui est un spectacle qui s'adressait intégralement, enfin, beaucoup, beaucoup au public, varie beaucoup suivant le public, quoi. Et ça, je trouve que pour moi, c'est important de m'en servir, parce que c'est ça qu'on a en plus, c'est que les acteurs, ils sont là en vrai, devant le public. Et encore plus quand ils jouent quelque chose d'eux, quoi. Ce qui était le cas dans le modèle et ce qui est le cas, par exemple, pour Camille dans son spectacle. C'est-à-dire qu'on raconte là quelque chose de soi en direct à des gens, quoi.
Comment vous travaillez les liens entre les chansons pour un concert ? C'est toujours comme ça que je pense toujours à ça, c'est-à-dire comment on présente. J'imagine que vous ne dites pas bonjour Paris, comme j'ai pu voir dans un concert récemment, je ne vous entends pas.
Bah, des fois, il faut dire bonjour.
Comment vous travaillez les entre chansons ?
Je suis assez mauvais là-dessus.
C'est vrai ?
Oui, enfin, ce que je veux dire, c'est que je suis bon en même temps. Mais, par exemple, dans le spectacle Cordemot, le travail, il y a vraiment eu un parti pris de. Il n'y a pas un applaudissement. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a un enchaînement des chansons qui fait que pratiquement à chaque fois qu'on a joué Cordemot, il n'y a pas un applaudissement, quoi. Alors ensuite, dans les concerts plus terriens, on va dire, quoi, les concerts plus rock, il y a des choses qu'on a en tête, qu'on a envie de faire passer, mais il n'y a pas de règle là-dessus. Je dirais qu'à un moment donné, c'est quelque chose de très spontané. En général, ça se passe dans le lieu, avec les gens. C'est les gens qui nous font réagir, à part si on a vraiment un message à faire passer. Mais en général, le silence, c'est bien aussi, quoi. Voilà, laisser la chose se faire toute seule. En général, moi, j'aime bien cette chose-là.
Il dit...
Le personnage, en l'occurrence, il est multiple, là.
Elle dit...
Le tête-à-tête, c'était... intense, quoi.
Merci à nos invités. Les Têtes-Raides, l'album Les Terriens, apparu sous le label Tôt ou Tard. Toutes les dates de la tournée seront sur le site de l'émission. Et je rappelle que vous serez le 27 juillet prochain dans la cour d'honneur du Palais des Papes pour la clôture du Festival d'Avignon. Pauline Bureau, Une Faille, c'est au Nouveau Théâtre de Montreuil jusqu'au 7 juin. Sirène, ce sera au Théâtre du Rond-Point à Paris à partir du 6 novembre. Et je signale aussi que le 10 juin sur France Culture, la pièce modèle sera diffusée en direct. Ça, c'était pour aujourd'hui, mais demain...
Nous proclamerons aujourd'hui quelles sont les dates de nos films.
Demain, du théâtre, une émission en direct et en public au Palais de Tokyo avec le metteur en scène Christian Schiaretti. À ses côtés, le danseur étoile Benjamin Pesch. Et Toumani et Sidiki Diabaté seront là s'ils arrivent à régler leurs problèmes de passeport puisqu'ils sont actuellement bloqués au Mali. Élodie ?
C'était le rendez-vous de Laurent Goumard, une émission que vous pouvez réécouter et podcaster sur le site franceculture.fr. Une émission préparée ce soir par Lucille Como, Benoît Lagane, Marie Pio et Élodie Royer. À la technique, Jacques Azubert et Clément Daté. À la réalisation, Thomas Beau.
Il est 19h53, vous écoutez France Culture, c'est bien.